Bienvenue aux personnes qui nous visitent. On est heureux de pouvoir partager ce temps tous ensemble ce matin devant notre Dieu. J'ai perdu ma feuille numéro 1. Nous sommes le 10 novembre. Demain, dans une grande partie de l'Europe, on célébrera l'armistice de la Première Guerre mondiale, la Der des Der. 11 novembre 1918, 60 millions de soldats. 60 millions de soldats, autant que toute la France. 9 millions de morts. 20 millions de blessés. Vous imaginez l'épreuve pour l'Europe, pour le monde entier. Aujourd'hui, c'est également organisé par Porte Ouverte le dimanche de l'Église persécutée. Beaucoup de frères et sœurs, nos frères et sœurs par le monde, subissent l'oppression, l'injustice des dirigeants ou des lobbies de leur pays, connaissent la privation de leur liberté simplement de penser, de réfléchir, de croire, de vivre même, simplement à cause de leur foi en Jésus-Christ. Simplement à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et vivent l'épreuve, la tribulation, la tentation dont parle à de nombreuses reprises la parole de Dieu. Dans la suite des thèmes de nos messages, arrivait ce dimanche le thème des promesses de Dieu lors des épreuves et des tentations. Lorsqu'on emploie ces mots, épreuve, tentation, il me semble qu'on voit assez bien ce qu'on veut dire. Alors, comment définir ces deux notions d'épreuve et de tentation? Un dictionnaire biblique m'a donné un raccourci que la Palisse n'aurait pas refusé. La tentation est une mise à l'épreuve. Ça nous avance, hein? Bien. C'est vrai que ces deux notions sont étroitement liées, tant par le fond que par la forme. Toutes deux nous mettent dans une situation de mal-être, d'incertitude, de souffrance, physique, morale, et nous perturbe profondément. Mais leurs conséquences, elles nous mettent devant les choix bien souvent radicaux, nous poussant dans nos retranchements jusqu'au fond, nous invitant à des actes, et par des actes, à prendre des positions arrêtées, tranchées et bien souvent arbitraires. La tentation est une épreuve qui s'impose à nous ou qui nous est imposée, dans le bon sens parfois, mais bien plus certainement dans un mauvais sens, avec astuce ou malice pour éprouver nos sentiments, notre équilibre, notre foi et nous faire réagir en prenant parti. C'est ainsi que le serpent insinuera subtilement le doute dans la parole reçue de Dieu par Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit, dis-moi réellement, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous êtes vraiment sûr de ça? Ne jetons pas la pierre à nos ancêtres. Jésus lui-même a été tenté, et ce fut pour lui aussi une épreuve. Le fait qu'il affirmait clairement sa divinité ne l'a en rien du tout épargné, ni de la tentation, ni de l'épreuve. De deux versets, les pharisiens se mirent à discuter avec Jésus, Marc 8, 11, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Ou encore un autre passage que vous connaissez, quand les pharisiens viennent parler de l'impôt à payer à César ou à ne pas le payer, Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me tentez-vous ? Pourquoi me tentez-vous ? » Les exemples sont nombreux dans l'Écriture, d'épreuves et de tentation. Dans l'Ancien Testament, Dieu met Abraham ou Job à l'épreuve pour les tester. Mais en même temps, et c'est important, Dieu pourvoira lui-même au sacrifice demandé à Abraham, par exemple. Il permettra aussi à Job, terriblement tenté par Satan, de traverser toutes les épreuves en lui préservant la vie et au bout de sa terrible souffrance, inexplicable à nos yeux, Job restera fidèle à Dieu qui le bénira abondamment en retour. Dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse nous rappelle avec insistance à celui qui vaincra et restera fidèle, je donnerai. Il y a tout un tas de choses qui vont derrière. Relisez les lettres aux épîtres dans l'Apocalypse. Les promesses de Dieu dans l'épreuve. Pour les premiers chrétiens, l'épreuve était un feu purificateur qui devait révéler l'authenticité de la foi. Et dans 1 Pierre 4, 12, on lit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris qu'une chose étrange qui vous arrive, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Tentation et preuve sont donc bien liées et relèvent du même mode de fonctionnement, bien souvent des mêmes causes, avec les mêmes enjeux, les mêmes aboutissements que nous allons voir maintenant au filtre de la parole de Dieu. Je regarde l'heure parce que je pense que je serai trop long, qu'il faudra un moment que je coupe un petit peu. Un premier point important est qu'il ne faut pas relier épreuve, tentation, avec foi ou santé spirituelle, dans un lien direct de cause à effet. Et dans l'autre sens, on ne peut pas non plus entrer dans un mode d'évangile de la prospérité à l'extrême, liant sans autre notre bonne santé à notre foi. Même s'il existe de façon ponctuelle des bénédictions ou des épreuves spécifiques envoyées pour justement nous enseigner ou nous équiper. Mais on ne peut pas établir comme théorème définitif qu'une personne passe par une grosse épreuve parce qu'elle n'a pas assez de foi. C'est important de se le rappeler, parce qu'on a tendance à considérer les épreuves des autres comme étant un signe de leur manque de foi. Non. Non. Même si je vous choque, non. Ni mesurer le niveau de la foi de notre voisin au regard des épreuves qu'il subit, ou de déclarer que c'est le résultat de son péché. Tout cela, Dieu seul le sait. C'est à lui que ça appartient. De telles réactions de notre part peuvent simplement s'assimiler à du jugement contre autrui, ce que condamne la parole de Dieu. De même, et là réfléchissons individuellement, personnellement, de même, une épreuve qui nous paraît à nous minime sera peut-être une montagne pour un autre frère. Et une épreuve qui nous dépasse, nous, personnellement, et dans laquelle nous sommes accablés, sera peut-être insignifiante pour notre voisin. Si Job a subi toutes ces épreuves, ce n'est pas parce qu'il manquait de foi, mais bien parce que Dieu savait avant que Job serait fidèle jusqu'au bout. Par contre, on pourra remarquer que si je manque de foi, je suis moins bien armé pour résister à la tentation et à l'épreuve. Épreuve, tentation, persécution, souffrance, tout cela reste souvent mystérieux pour nous dans le plan de Dieu. Mais quelques points sont importants à se rappeler au Dieu de l'Écriture. Dieu nomme clairement l'ennemi le tentateur. C'est un des noms qui est utilisé. Ce n'est pas « il est le tentateur », non, c'est « le tentateur ». Il l'appelle Satan, il l'appelle le diable, il l'appelle le tentateur. Combien de fois dans le cadre de mon boulot, mais vous sûrement aussi, j'ai entendu mes collègues qui avaient un souci ou un problème dire « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Au début, je me faisais un prénom à leur dire « mais qu'est-ce que tu lui as peut-être pas fait ?» Et après, j'ai arrêté parce que je ne sais pas si c'était très utile. Comme si Dieu avait promis que nous serions toujours tous beaux, bien bronzés, bien sapés, riches et de surcroît en bonne santé. Ce n'est pas ce que promet la Bible. Dieu nous aime comme un père aime ses enfants. C'est pour cela qu'il nous reprend et permet pour nous épreuves et tentations. Dans l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 12, verset 4, nous lisons. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, comme à des fils. Mon fils, et ça c'est pour chacun de nous, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe du bâton, vous avez bien entendu. Vous imaginez aujourd'hui si on frappe du bâton, dans quelle situation on est par rapport à nos enfants. Et il frappe du bâton tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Seul un père qui n'aime pas ses enfants ne les reprend pas. Et on peut mesurer l'amour de Dieu, peut-être en acceptant les épreuves simplement qu'il place devant nous. L'épreuve est donc nécessaire, normale, bénéfique. Elle entre totalement dans le plan de Dieu le Père qui prend soin de nous et pour prendre soin de nous. 1 Timothée 3, verset 3 le rappelle encore. Nous envoyâmes Timothée, c'est Paul qui dit, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Destinés à cela. Destinés aux tribulations. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. L'épreuve est donc nécessaire, normale, bénéfique, mais elle est aussi libératrice du péché. En ce qu'elle nous rappelle qu'au bout du compte, le péché a été racheté, non pas par notre foi ou par notre résistance à cette épreuve, mais par le sacrifice de Jésus-Christ lui-même qui a vaincu la mort et le péché. 1 Pierre 4:1, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Il y a une raison, afin de vivre, non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Formateur, libérateur. Cette épreuve est envoyée par notre Dieu pour affermir notre foi. Mais elle est envoyée, c'est important de se le rappeler, de façon tout à fait personnelle. L'épreuve est personnelle. Alors il peut y avoir une épreuve pour une communauté, bien sûr. Mais quand on parle de notre épreuve, l'épreuve est personnelle, intime, entre nous et Dieu. C'est pour ça qu'elle nous regarde, nous et Dieu, et qu'on ne peut pas juger ou préjuger de l'épreuve de notre voisin ou de notre frère. Romains 14, 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ? Qui es-tu, toi, qui va juger l'épreuve de ton frère ou de ta sœur ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, cela regarde Dieu. Et là, notre verset continue, « Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Amen. Dieu nous donne de multiples ressources pour faire face à l'épreuve ou à la tentation. Veillez et prier. On le rappelait mardi lors de l'étude biblique, Yann Newbery nous disait lors du dernier séminaire que nous devions prier notre Dieu avant, en prévision, en préalable, en protection, avant la tentation. Avant, et c'était important de se remettre entre les mains de Dieu. Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Dieu nous connaît drôlement bien. Il sait très bien que si nous entrons dans la tentation, ce sera beaucoup plus dur. Cela veut dire que si Dieu le permet, c'est bien Satan qui est à la source des tentations, parce qu'il va insinuer en nous. Jésus lui-même, dans sa prière modèle de Matthieu 6, nous rappelle de demander à Dieu « Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. » Voyez comme c'est lié, « Délivre-nous du malin. » Ne nous induis pas, c'est-à-dire protège-nous ou s'il est possible que nous n'ayons pas, fais-le, ou prépare-nous, épargne-nous. Réfléchissez aux mots qu'on peut mettre derrière, vous-même, pour vous-même, mais délivre-nous du malin. Un point important est que Dieu a le contrôle sur nos épreuves et nos tentations. Elles ne lui sont pas du tout inconnues, ni ne le laissent insensible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on ait dans notre esprit. Dieu les voit, Dieu les connaît et Dieu y est sensible. Quand un chrétien souffre, Dieu le sait et cela le gêne, même si l'épreuve vient de lui, parce qu'il le voit souffrir. Dieu les voit clairement. Dans l'Exode, le peuple, vous savez le peuple qui souffrait, le peuple qui n'en pouvait plus des corvées sous Pharaon. Exode 3, 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Je connais ses douleurs. Dieu connaît les douleurs de son peuple. Exode 6, 5, « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. » Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Dieu se souvient, dans les moments difficiles, de son alliance qu'il a faite avec chacun de nous. Il est attentif, il surveille cela de près. Il surveille cela de près pour chacun de nous. 1 Corinthiens 10, vous connaissez ce passage. Aucune tentation ne vous est parvenue, ne vous est survenue qui n'a été humaine. Aucune ne vous est survenue qui n'a été humaine, que vous n'ayez pu supporter. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas, et ça c'est une drôle de promesse, que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que dans la situation inextricable où je me sens petit, démoli, abandonné de tout, non, non. Dieu dit que nos forces nous serons renouvelés pour pouvoir, à ce moment-là, le retrouver et nous retrouver nous-mêmes. Et ça, c'est important. Et la suite du verset, c'est « Avec la tentation, avec l'épreuve, mettez le mot épreuve si vous voulez, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Est-ce qu'on se rend compte de la bonté et de l'amour de Dieu? Si vous voulez définir le mot « miséricorde », là, c'est juste qu'il y a dedans. 1 Corinthiens 10, verset 13. La miséricorde de Dieu, de ce qu'il a préparé tout à l'avance, dans l'épreuve, dans la grandeur de l'épreuve, dans la difficulté de l'épreuve, en relation avec nos forces et en relation avec ce qu'il mettra pour que nous puissions en sortir. Ce verset de Corinthiens est primordial, car il nous remet en mémoire le cadre dans lequel Dieu situe l'épreuve et la tentation. Ce cadre est ainsi clair, tant pour lui que pour nous. Et c'est important de se le rappeler. L'épreuve, notre épreuve que Dieu nous donne à chaque instant de notre vie, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, font partie de la pédagogie de Dieu. Dieu accepte, permet, tolère, utilise l'épreuve comme un acte éducatif à notre formation personnelle de fils et de fille du Dieu vivant. Hébreux 12, toujours ce passage d'Hébreux, Hébreux 12, verset 10. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord pour chacun de nous une tristesse et non une joie. Oui, c'est comme ça que nous réagissons. Mais, il produit plus tard pour tous ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit de paisible de justice. L'épreuve produit un fruit paisible de justice. De Corinthiens 4, 8, ce verset fort. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Et la suite du verset. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Pourquoi ? Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre propre corps. Vous le relirez, 2 Corinthiens 4, verset 8. Il est vraiment extraordinaire. Relisez-le, mettez-le sur un petit bout de papier tout près de vous. Un endroit où vous pouvez le trouver facilement. Parmi de nombreuses choses que Dieu met à notre disposition, il utilise donc épreuves et tentations pour nous former, mais c'est pour notre bien, pour accéder à sa gloire, pour accéder à sa gloire, notre accès à sa gloire. Nous savons du reste, vous connaissez cette phrase, que toute chose, ce n'est pas que les bonnes, hein, toute chose concourt, Loredane, au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et j'ai envie d'ajouter, il les a aussi formés par toutes sortes d'épreuves. Et c'est vrai que ces versets sont durs à comprendre et à accepter par tous ceux qui souffrent et qui bien souvent trouvent cela injuste. Et quand nous trouvons que notre frère souffre et que nous trouvons cela injuste, c'est aussi dur à accepter. Pierre 5, 8, 9. Soyez sobres et veillés. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Celui qui se croit debout, prenne garde de ne pas tomber. C'est comme ça que Dieu veut nous enseigner. Autre chose que Dieu met à notre disposition, nous soumettre à Dieu et résister aux tentateurs. Nous soumettre à Dieu. Soumettez Jacques 4,7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et vous connaissez la suite, et il fuira loin de vous. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Un autre point important, refusez Satan. Refusez Satan. Lui dire stop, lui dire non au nom du Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés, 1 Corinthiens 10, 13 et la suite, fuyez l'idolâtrie. Dieu nous demande cela parce que il nous fait confiance. Et un des points importants pour résister à la tentation aussi et à l'épreuve, c'est de nous rendre dignes de la confiance que Dieu met en nous. Job a résisté et au bout, Dieu témoigne qu'il est digne de la confiance qu'il a mis en lui. Et la suite de ce verset de 1 Corinthiens 10, 13, et les suivants, comme je disais, toute la suite du passage, c'est « Je vous parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même ce que je dis. » Dieu a envie qu'on réfléchisse à toutes ces choses et qu'on les prenne vraiment au milieu de notre cœur. Être digne de la confiance de Dieu, de la confiance aussi, et ça c'est dur à avaler, de la confiance aussi que Dieu nous fait en plaçant devant nous ces épreuves. C'est pour notre foi, c'est pour le bien de notre foi. C'est une vraie philosophie de vie que Dieu désire mettre en nous face à l'épreuve et aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Pas quelque chose, pas un claquement de doigts ou un remède miracle, vous savez, ou un coup de clic de souris, qui fait que l'épreuve, tout d'un coup, pouf, on va la survoler ou on va la mettre entre parenthèses, on va l'occulter. Non, pas du tout. Mais une façon de l'aborder qui nous la fait lire et regarder avec les lunettes de Dieu, pas avec les nôtres. Et cela bouscule, c'est vrai, notre manière de concevoir nos relations avec notre entourage, notre prochain et le monde qui nous entoure. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais juste vous lire encore un dernier verset. J'ai toute une série, mais j'aurais aimé développer sur les promesses vraiment très fortes que Dieu a données dans l'épreuve. Mais dans le chapitre 13 des Épîtres aux Hébreux, relisez-le, il est très important. Dieu nous dit deux choses importantes. Deux choses. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Alors, c'est difficile quand on n'a rien. Je crois que c'est aussi difficile quand on a beaucoup. C'est peut-être plus dur. Mais contentez-vous de ce que vous avez, de ce que Dieu vous donne dans votre vie, c'est-à-dire contentez-vous aussi de réfléchir à vos épreuves que vous avez, à votre tentation que vous avez. Soyez conscient que c'est Dieu qui le donne pour votre bien. Soyez-en content, contenté. Ça veut dire que ça nous laisse le temps de réfléchir comment les aborder et comment répondre à Dieu. Et puis la suite de ce verset, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit lui-même, c'est bien écrit comme ça, hein, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quelle que soit notre épreuve, quel que soit notre niveau de foi, quel que soit notre engagement devant Dieu, Dieu nous dit, contentez-vous de ce que vous avez, et nous dit aussi, je ne vous délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je crois que dans notre monde actuel, où on vit beaucoup en réactivité, vous savez, on dit action, réaction, tout le temps, il faut que ça suive comme ça, pourquoi on ne sait pas toujours non plus, on a besoin de se poser et de réfléchir à ce que Dieu met devant nous. À ce que Dieu nous donne à manger et à boire tous les jours. Mais ne pas l'avaler comme ça tout droit et réfléchir, le savourer. Oui, je dis bien le savourer. Comme on dit aux enfants, savoure, mange pas comme ça, savoure ce que tu manges. C'est-à-dire, apprécie, c'est reconnaître ce qu'il y a dedans. C'est reconnaître à quoi ça sert. Eh bien, je crois que Dieu nous appelle à nous contenter, mais dans ce contentement, à nous arrêter pour comprendre pourquoi nous pouvons être contentés ou nous pouvons être interpellés ou nous pouvons être aussi gardés et gardés par Dieu qui ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Je vous invite à un petit temps de silence par rapport à ça. Seigneur, c'est souvent difficile de pouvoir nous arrêter pour faire ce point sur notre vie, sur les épreuves que tu mets devant nous. Nous te prions que pour chacun de nous, nos épreuves soient supportables parce que tu es notre Dieu et parce que tu nous promets de nous donner ton contentement et de ne pas nous délaisser, de ne pas nous abandonner. Nous te remercions de ce que nous pouvons vivre cela comme venant de toi. Aide-nous, Seigneur, à, si nous le pouvons, prendre part aussi aux épreuves de nos frères et sœurs pour les consoler, pour les fortifier, en leur apportant cette parole que tu ne les délaisseras pas et que tu ne les abandonneras pas. Nous te prions que nous puissions le vivre, Seigneur. Ça fait partie de ce que tu nous donnes comme commandement. Et ça fait partie de l'amour que tu nous demandes de partager les uns avec les autres. Nous te prions pour nous, personnellement en particulier, pour chacun de nous, personnellement en particulier, Seigneur, que tu nous gardes chacun dans nos épreuves. Près de toi, tu gardes notre foi, que tu nous rappelles quand c'est besoin, que tu ne nous abandonnes pas, que tu nous donnes cette force aussi de rester auprès de toi et de sentir ton amour qui nous garde, qui nous guide, qui nous apporte la paix. Seigneur, je te prie vraiment pour tous les frères et sœurs, tous tes enfants qui sont dans la tentation, qui sont dans l'épreuve, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la guerre, qui sont dans la tribulation, spécialement pour ceux qui souffrent dans des pays totalitaires. Tous ceux qui souffrent de la persécution spécialement, pas simplement parce qu'ils croient en toi, simplement parce qu'ils croient en la vie en toi. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses leur apporter ces versets de certitude, de force, d'encouragement. Te prions aussi pour tous ceux qui souffrent de maladies, dans leur corps, dans leur tête. Seigneur, que cette épreuve que tu poses devant eux que ces moments difficiles par lesquels ils passent servent aussi à les rapprocher de toi. Merci Seigneur pour toutes les promesses que tu as en réserve pour nous. Toutes les promesses de ton amour. Merci parce que pour toutes ces difficultés, tu as payé toi sur la croix. Et tu nous en as libérés pour que nous te rendions gloire. Seigneur, nous voulons t'adorer en retour. Amen. Pendant qu'on ramasse les gobelets, j'aimerais partager vous les annonces et peut-être je vous propose d'avoir un très court temps de prière pour ceux qui le veulent, pour les Philippines. Si vous avez ouvert votre radio ce matin, vous avez entendu qu'il y a eu une terrible tempête, cyclone aux Philippines et qu'on annonce plus de 10 000 morts. C'est un chiffre qui nous surprend. Et je pense qu'on peut avoir un petit temps de prière de quelques minutes, ceux qui veulent s'exprimer. Prions pour toutes les personnes qui souffrent. On a parlé de souffrance ce matin. Prions pour ces personnes qui souffrent. Prions pour toutes ces personnes, chrétiennes ou non. Prions pour ces gens qui sont dans la détresse. Soyez libres. Seigneur, entends les prières de nos cœurs, silencieuses de nos cœurs, pour ce peuple qui souffre de cette catastrophe naturelle. Seigneur, nous te remettons chacun. Nous te prions, Seigneur, que tu les gardes, que tu les réconfortes, que tu poses ta main sur eux. Bénis-les, Père. Amen. Je prends les activités de l'Église cette semaine. Mardi, c'est le soir des cellules. Les cellules de GEX, ce sera chez nous à Cessy. La cellule de Prévesin chez Manu et Rebecca. La cellule du... C'est le nord ou le sud, on a dit l'autre jour ? C'est du sud. La cellule du sud, c'est chez Fred et Nancy. Jeudi 14, ici, chorale, 20h30. Samedi 16, groupe de jeunes. Dimanche 17, café thé, 9h30. Et culte à 10h30. Mardi 19, donc le mardi d'après, étude biblique des aînés. Voilà, j'ai un tas de petites annonces à faire. Je vais essayer de les faire dans le désordre, ça sera mieux. Inscription Noël, fête de Noël. Notre fête de Noël approche. Vous savez qu'elle est en novembre. Elle a lieu le 30 novembre. Il y a au fond deux panneaux d'inscription. Très important, il y a un panneau pour s'inscrire pour le repas, pour s'inscrire vous et les invités que vous aurez, qu'on sache le nombre complet de personnes. Donc c'est important de se mettre là-bas sur ce panneau. Et puis sur le panneau d'à côté, on vous demande pourquoi vous pouvez aider. Alors il y a une colonne pendant le repas, c'est pour le service. Il y a une colonne pour la vaisselle, c'est après le repas. Il y a pour la vaisselle, rangement de la cuisine et pour le rangement de la salle après. Merci de mettre des coches là-bas. Et si vous avez des infos, vous pouvez demander en tout cas pour tout ce qui est pendant le repas à Nancy et pour ce qui est plus tard à un des anciens ou à quelqu'un du groupe de jeunes, il n'y a pas de problème. Je rappelle juste cet après-midi, donc, tous ceux qui participent à la fête elle-même, au spectacle de Noël, je vais dire ça comme ça. Rendez-vous cet après-midi ici à partir de 13h, 12h30, 13h, on va manger vite fait en bas et puis on fait au plus vite. Ça sera un premier briefing simplement pour bien caler, pour que tout le monde sache exactement ce qui se passe, à quel moment, c'est un peu spécial cette année, hein, et comment est-ce qu'on le met en place. On espère que ça ne sera pas trop long et on se retrouvera les dimanches qui suivent après pour répéter de nouveau les après-midi. Voilà pour ça. Je vais tracer ça. Il y a encore aussi, et c'est pour le même week-end, n'hésitez pas à le faire, c'est important qu'on le fasse. Il y a le lien avec le Dodel pour s'inscrire pour la banque alimentaire. On compte sur vous. Il y a déjà des personnes qui sont inscrites, mais il faut qu'on ait du monde. Il nous faut du monde le vendredi, sans faute. Hein. On sera absent, nous, Église, le samedi. Il nous faut du monde le vendredi. N'hésitez pas, 1 heure, 2 heures. On a mis des tranches de 2 heures. N'hésitez pas à vous inscrire, soit pour le carrefour de la poterie et Ferney Voltaire, soit pour le carrefour de Senny. J'ai vu deux fois ces dernières semaines les responsables de la banque alimentaire pour des organisations techniques, le nombre de personnes sur le pays de GEX nécessiteux a plus que doublé depuis l'année passée. Plus que doublé. Alors ça, ce n'est pas pour le pays de GEX qu'on va récolter. Ça va tout aller à Bourg et c'est redispatché après dans tous les villages qui leur demandent. Et donc, ils comptent vraiment sur nous pour ça. Autre annonce, librairie. À la librairie est arrivé le dépôt de Noël. Vous savez, toutes ces choses qu'il y a pour faire des petits cadeaux. Il y a des choses superbes. Je n'ai pas le temps de vous les présenter toutes. Mais il y a des choses superbes. On a vu tout à l'heure déjà. Pascal m'a dit, venez voir. Il y a des choses superbes. Donc, faites un tour à la librairie pour les petits cadeaux. C'est super. Ça, j'ai fait. Craig.
Bonjour tout le monde. Noël approche, donc pas ce week-end prochain qui arrive, mais le week-end après, donc le 24, dimanche 24, novembre. C'est le novembre, pardon, ouais, c'est le marché de Noël, donc à Prévesin. Et puis, comme chaque année, on a un stand à nouveau avec la librairie. Et puis, c'est une opportunité aussi de présenter l'église à toute la commune de Prévesin et toutes les visites. C'est une opportunité aussi de le côté lecture, le côté besoin pour certaines personnes peut-être qu'on a la librairie là aussi. Et puis c'est aussi une opportunité pour présenter le fête de l'Avent qu'on va le faire le week-end après. On va avoir des flyers qu'il faut donner. On a la liberté de donner ça aussi, donc qui est superbe parce que c'est vraiment restreint au niveau d'autres choses qu'on a le droit de donner, donc c'est pas évident. Moi, j'ai besoin, on a des jours pour les questions de librairie, c'est bon, mais on a besoin de deux personnes le matin, de 10h à 2h l'après-midi, et puis deux personnes l'après-midi, de 2h à 6h, 5h30, 6h, quand c'est fini. Donc, j'ai besoin de deux personnes. Ces personnes-là, c'est vraiment pour accoster des gens, pour donner des flyers, pour les encourager. Et puis, s'ils ont des questions par rapport à qui nous sommes, de pouvoir répondre gentiment. Quoi. Donc, voilà. Donc, si vous vous sentez apte de le faire, c'est tout bête, franchement, mais volontiers, vous venez me voir ce week-end, aujourd'hui et puis le week-end prochain. Merci.
Merci. Les flyers pour la fête de Noël, vous pouvez les prendre. Ils sont superbes. Ils sont là. C'est marqué fête de l'Avent. Ne nous dites pas qu'il y a une faute d'orthographe. C'est volontaire. C'est avant Noël, donc hein, c'est pour ça qu'on l'a mis comme ça. Donc voilà, vous pouvez les prendre à la sortie. Prenez-les justement par rapport à ce que vous en distribuez. Hein. Ce n'est pas fait pour faire des petites notes. C'est pratique, mais ce n'est pas fait pour faire des petites notes personnelles. Hein. Voilà. Anne-Marie m'a encore fait passer aussi une annonce à vous faire, quelque chose de tout à fait spécial aussi. Aujourd'hui, on l'a dit, donc Porte Ouverte organise le dimanche de l'église persécutée. C'est Anne-Marie qui parle. Hein. En tant qu'antenne de Porte Ouverte, je propose que notre église participe à toutes les actions, toutes les initiatives qui ont lieu un peu partout dans les églises de France et de Suisse. Je propose donc de faire un marché de Noël, écoutez bien, à l'issue du culte du 15 décembre, où des décors de Noël, composition, centre de table seront mis à la vente. Ne serait-ce pas une façon de penser à nos frères persécutés en Syrie? Comment vont-ils vivre le Noël cette année? J'invite donc chaque personne qui est intéressée, jeune et moins jeune, à se retrouver le samedi 14 décembre à 14h au sous-sol pour fabriquer ces décors. Mettre en vente cette œuvre, cet artisanat, le lendemain ici à l'église. Voilà, donc vous allez voir Anne-Marie, donnez vos idées. Il s'agit de faire des petits bricolages, des petites choses qu'on peut mettre sur la table à Noël. Voilà, Anne-Marie a déjà sûrement beaucoup d'idées. Elle est en train de s'occuper des enfants ce matin. Donc vous allez voir Anne-Marie et puis on en reparlera dans les dimanches, les week-ends qui viennent aussi. Voilà, je vais bientôt en avoir fini, sinon je voulais penser vraiment, qu'on pense vraiment à nos malades. Et Didier est parmi nous, on se réjouit de te voir Didier. On l'avait dit déjà, il y a cette échéance du 14 novembre, qui arrive cette semaine. Et je vous propose que mardi, dans nos cellules de prière, on passe un temps spécifique pour prier pour cette décision qui sera prise. Donc, il semble qu'on va vers une opération, mais enfin, voilà, Didier soit aussi libéré de cette pression, de cette décision. Et on veut vraiment, vraiment prier pour vous deux. On est vraiment super heureux que vous soyez là aujourd'hui. parmi nous. On va vraiment continuer à prier pour que Dieu continue à te garder, à vous garder les deux. Pensons aussi à Jacques et à Guylaine qui sont fatigués, très fatigués, et qui ont peut-être besoin de qu'on prie vraiment pour eux, un petit coup de fil ou une petite visite, peut-être c'est sympathique aussi. Voilà, j'étais bien assez long, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Juste. Charlie. Oui ? Oui, Philippe.
Oui, juste, merci. Mélanie, on entend dire qu'elle est dingue parce qu'elle fait un métier de fou. Oui. Elle est un peu dingue quand on la connaît, mais il y a quelque chose de plus grave qui est arrivé cette semaine. Elle a été piquée et elle a la dingue. Donc, c'est très épuisant, très fatigant. Ça arrive dans ses pays. Pensez à elle, elle n'est pas en forme du tout. Voilà.
Merci Philippe. Pensez à Mélanie spécialement aussi. Pensons mardi. Oui, on cherche une personne, wanted, on cherche pour notre spectacle de Noël une personne qui jouera le rôle de Nicodème. C'est facile. Hein. Non mais on cherche vraiment, hein. On rigole pas là, on cherche un Nicodème. Là. Il a. Alors, je vais vous mettre à l'aise tout de suite, Nicodème aura la possibilité d'avoir son texte dans un livre. Allez, un peu, c'est facile. Il aura peut-être son texte dans un livre parce qu'il sera probablement dans une bibliothèque ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc c'est fastoche. Merci. En tout cas, si vous avez envie de voir ce qui va se passer à Noël, restez. Hein. Et puis si vous avez envie de faire Nicodème, c'est Rémi qui sera le contradicteur là, qui va vous un petit peu vous briefer là. Merci de vous adresser à Rémi. Je vous invite à vous lever. Et je vous lirai quelques versets que je voulais vous donner par la suite, mais ça fera l'occasion d'un prochain message. Vous connaissez Matthieu 5, formidable passage de Matthieu 5, et c'est pour chacun de nous, et pour chacun de nous qui, par rapport à sa difficulté ou à sa souffrance, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que Dieu vous garde, vous bénisse abondamment. Amen.